Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux.
Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour.
Dieu dit qu'il y ait une voûte au milieu des eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit la voûte, il sépara les eaux qui sont au-dessous de la voûte et les eaux qui sont au-dessus de la voûte. Il en fut ainsi. Dieu appela la voûte ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour.
Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'amassent en un seul lieu et que la terre ferme apparaisse. Et il en fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre. Et il appela la masse des eaux « mer ». Dieu vit que cela était bon. Dieu dit « Que la terre donne de la verdure, de l'herbe porteuse de semences, des arbres fruitiers qui portent sur la terre du fruit selon leurs espèces et qui ont en eux leurs semences. » Et il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences, selon ses espèces, et des arbres qui portent du fruit, et qui ont en eux leurs semences, selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour.
Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans la voûte céleste pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les rencontres festives, les jours et les années, qu'ils servent de luminaires dans la voûte céleste pour éclairer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer le jour et le petit luminaire pour dominer la nuit, ainsi que les étoiles. Dieu les plaça dans la voûte céleste pour éclairer la terre, pour dominer le jour et la nuit, et pour séparer la lumière et les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour.
Dieu dit que les eaux grouillent de petites bêtes, d'êtres vivants, et que des oiseaux volent au-dessus de la terre, face à la voûte céleste. Dieu créa les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui fourmillent, dont les eaux se mirent à grouiller selon leurs espèces, ainsi que tout oiseau selon ses espèces. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour.
Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leurs espèces, bétail, bestioles, animaux sauvages, chacun selon ses espèces. Il en fut ainsi. Dieu fit les animaux sauvages selon leurs espèces, le bétail selon son espèce et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit. Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. » Dieu dit, « Je vous donne toute herbe porteuse de semences sur toute la terre et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui fourmille sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait. C'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour.
Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Le septième jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour sacré. Car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant.
Que le Seigneur bénisse sa parole. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est le texte qui ouvre la Bible, c'est le début de la révélation divine. La révélation divine, la Bible, est très bien faite. On n'est pas obligé de la lire dans l'ordre. Mais si on prend la Bible par le début, c'est ce texte par lequel on arrive, c'est ce texte qui vient à nous. C'est ce texte sur lequel on tombera. C'est par ce texte que Dieu se présente, qu'il prend la parole, et il est bon de nous mettre à son écoute, d'écouter ce qu'il a à nous dire si on lui demande « Alors Dieu, explique-moi ». Ce texte est riche, très riche. On a passé plus d'une heure et demie en études bibliques, mardi, à y réfléchir, et on aurait pu continuer. On en parle ce matin, et on pourrait poursuivre après cette prédication. On pourrait constituer des bibliothèques de ce qui a été écrit dessus, autant par des auteurs croyants que des auteurs qui ne croient pas. C'est un texte riche en polémiques. On pourrait, par exemple, prendre le débat entre évolutionnistes et créationnistes. Comment interpréter ce texte? Est-ce qu'il faut le prendre de façon littérale? Parle-t-on de journées de 24 heures? Ces questions sont passionnantes. Et tout en maintenant une lecture résolument évangélique, on peut s'interroger longuement dessus. Comme je disais, nous les avons abordés mardi soir à l'étude biblique, et je ne reviendrai pas dessus ce matin. Mais il est bon quand même de savoir que ce n'est pas nouveau que ce texte suscite comme ça des débats, et je crois qu'à l'époque déjà de ses premiers lecteurs, il y avait des désaccords avec ceux qui étaient là. Nous y reviendrons. Aujourd'hui, sans se concentrer sur les polémiques, j'aimerais nous concentrer sur ce que Dieu a à nous dire à travers ce texte. Parce que je crois que le souci de Dieu, au moment où il prend la parole, ce n'est pas de livrer un traité scientifique. Ce texte nous apprend que Dieu a créé l'univers. Quand le texte parle du ciel et de la terre, il ne parle pas de ce que nous appelons aujourd'hui le ciel et la terre. Aujourd'hui, où nous avons des microscopes et des télescopes qui nous permettent de voir bien plus loin. En parlant du ciel et de la terre, il parle de tout l'univers connu pour les premiers auditeurs de ce texte. Tout le ciel et la terre, c'est tout ce qui existe, connu et inconnu, visible et invisible. Dieu a tout créé, et ça donne le vertige. Et pourtant, en lisant ce texte, on a l'impression d'avoir affaire à un texte tout simple. C'est d'ailleurs un texte qu'on peut lire à nos enfants sans y faire de modifications, et ils l'accueillent avec joie. En lisant ce texte, on a l'impression d'avoir affaire à un artisan au travail. Notez tous les verbes qui décrivent son action. Il fait, il sépare, il place, il crée. On a l'impression d'être dans son atelier à regarder ce qu'il fait. Il ne faut pas se laisser tromper par ce style. Le texte n'est pas en train de décrire un dieu humanoïde qui se sert de ses deux mains pour fabriquer le monde comme nous le ferions quand on bricole, quand on fait de la cuisine. C'est un texte semi-poétique. On ne sait pas exactement comment se passent les choses. Et puis, il y a une dimension poétique. On trouve des rythmes, des répétitions. Et il y a une chose qui revient, en particulier, comme un refrain. Dieu dit. C'est une constante, répétée à toutes les étapes de la création. Ça revient comme un refrain, un peu comme il y eut un soir, il y eut un matin. Ça vient rythmer le texte. Dieu dit. Il ordonne et sa parole suffit. Qu'il fasse ou que plus mystérieusement les choses apparaissent, il en fut ainsi, ce qu'il souhaite apparaît. Par sa parole, les choses adviennent comme manifestation de sa volonté. Dieu crée par sa parole et c'est répété ailleurs dans la Bible. Le psaume 33, par exemple, il nous est dit que l'Éternel a parlé, les cieux ont été faits par la bouche de l'Éternel. Et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. Et c'est un premier enseignement de ce texte. Notre monde n'est pas là par hasard dans l'univers. Il existe parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu l'a décidé. La science explore et comprend beaucoup de choses, mais à une question à laquelle elle ne pourra jamais répondre. Pourquoi l'univers existe-t-il? Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien? Comment il s'est formé? Jusqu'où remonter aussi loin, le Big Bang ou avant, etc. Elle peut étudier. Mais pourquoi plutôt que rien? La Bible y répond et nous dit que l'univers existe parce que Dieu l'a voulu. Et la Bible nous dit que ce monde créé est bon. C'est un autre refrain qui revient. Après chaque acte de création, chaque jour, Dieu observe ce qu'il a fait. Dieu vit que cela était bon. Et au cas où nous en douterions, la conclusion de l'œuvre créatrice à la fin du sixième jour ne laisse aucun doute. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait. C'était très bon, au verset 31. Dieu a créé un monde plaisant, ordonné, harmonieux. On le voit séparer les éléments, donner à toute chose une place, donner un rythme à la vie, nommer les choses et finalement leur donner une fonction, leur donner un mandat, un rôle à jouer dans le tableau. Dieu a créé un monde où chaque chose a sa place, où chaque chose a un rôle. Il a fait un monde qui a une existence propre, de la végétation, des créatures, des hommes qui visent, se reproduisent et s'étendent. Et puis, Dieu bénit. Aux êtres vivants qu'il a créés, il prévoit de belles choses. Il leur donne de grandir, de prendre possession de la terre, de prospérer. Ça, c'est pour les êtres vivants, mais pour l'homme, c'est plus encore. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui fourmillent sur la terre. Plus qu'à toutes les créatures, Dieu confie le monde qu'il a créé. Et l'homme occupe ainsi une place de choix, la première place. C'est ce qui fait dire au psalmiste, plus loin dans la Bible, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin ? Qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses ? Et pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Voilà, voilà ce que nous apprend le texte. Voilà ce qu'est la création du monde. On y voit Dieu prendre la parole, annoncer ce qu'il veut faire et faire ce qu'il veut. Rien n'est le fruit du hasard, tout est issu de sa volonté. Et non seulement ce qui est là est le fruit de sa volonté, mais également c'est bon. La création est une réussite, une belle réussite. Et l'homme dans tout ça. L'homme à qui Dieu se révèle, l'homme avec qui Dieu entre en contact, comment va-t-il réagir ? Est-ce qu'il va s'inscrire dans ce dessein, accepter qu'il est une créature, vivre selon le plan de son Créateur et en recevoir la bénédiction ? Va-t-il accepter qu'il a le même statut de créature que son frère, que la femme? Je disais que ce n'est pas nouveau que ce récit soit polémique. Aujourd'hui, on a des débats sur science et foi. À l'époque, un des débats, justement, c'était ce statut partagé de créature. Quand on lit ce que croyaient, pensaient les civilisations autour du peuple d'Israël, eh bien, les rois étaient des dieux, les rois étaient à l'image de Dieu et pouvaient dominer sur les autres. Ici, l'homme est à l'image de Dieu. Tous les hommes, hommes et femmes, sont à l'image de Dieu. L'homme va-t-il accepter ce statut de créature ? Ou bien va-t-il n'en faire qu'à sa tête ? Vivre à sa façon, persuadé qu'il sait mieux que quiconque comment il fonctionne, ce qui est bon pour lui. Qu'il le sait mieux que son Créateur. Cette question, elle se pose à chacun d'entre nous. Comment est-ce que je mène ma vie ? Croyant ou non, je pense que nous sommes tous concernés par cette question. Parce que le statut de créature a des implications éthiques nombreuses, à la fois sur le plan de la morale personnelle que dans la façon dont je vis mes relations avec les autres. Suis-je certain de me comporter selon le plan de Dieu, selon ce qu'il a prévu pour moi, selon mon manuel d'utilisation. Pour ma part, À mon grand regret, j'ai peur que ce ne soit pas toujours le cas. Ai-je la prétention de savoir ce qui est bon pour moi? Ou est-ce que je fais confiance à mon jugement par-dessus tout? Est-ce que je revendique à tout prix ma liberté? Le monde dans lequel nous vivons élève au-dessus de tout la liberté individuelle. Et cette recherche de liberté nous conduit à des dérives. Liberté de vivre à la recherche de mon plaisir. Liberté de piller la création. Liberté d'ignorer ceux dont je ne veux pas qu'ils fassent partie de mon cercle. Liberté d'inventer ma sexualité. Liberté de ne pas accueillir l'étranger. Liberté de faire ce que je veux, comme je le veux, sans me soucier des conséquences. Cette attitude est bien orgueilleuse. Car même sans lire la Bible, l'homme devrait se laisser interpeller quand il voit le monde. Quand il voit l'immensité de l'espace autant que l'infiniment petit et la place privilégiée qu'il occupe dans tout cela. Il devrait être interpellé. Cela devrait l'amener à la modestie, à la crainte de quelque chose de plus grand, à la crainte du Créateur. La Bible dit que les hommes n'ont aucune excuse de ne pas reconnaître Dieu alors qu'ils ont sous leurs yeux sa création. Vivre sans suivre ce que Dieu veut, sans vivre ce que Dieu a prévu, l'homme a essayé. Et quand on voit comment le monde tourne aujourd'hui, on se dit que ce n'est pas ce qu'il a fait de mieux. Ne serait-il pas temps de se mettre à l'écoute de Dieu? Au moment où il se met à l'écoute de Dieu, au moment où il ouvre la Bible, qu'il commence par les premières pages, l'homme est interpellé par ses paroles. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est comme si on lui disait, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un au-dessus de toi, quelqu'un qui t'a créé. Il n'a rien fait au hasard. Tu es là parce que tu es le fruit de sa volonté. Et ce qu'il a fait est bon. C'est bon pour toi, pour peu que tu suives ses prescriptions. Alors bien sûr, il reste encore quelques pages. Après ce texte, l'histoire continue. Dieu a autre chose à nous apprendre, autre chose à nous révéler, autre chose à nous dire. En particulier, il va nous expliquer pourquoi le monde créé bon ne l'est pas resté. Mais il nous apprend aussi comment l'homme peut revenir à ce qui est bon. Pour découvrir tout cela, je vous invite à poursuivre votre lecture de la Bible. Mais ce texte, pris seul ce matin, nous interpelle en nous rappelant comment le commencement de tout était Dieu. Homme, croyant ou non, prends le temps de t'arrêter. Regarde autour de toi. Ne te sens-tu pas tout petit dans l'univers? Alors, ne pense pas que tu es le centre du monde. Ouvre-toi à ce qui est au-delà. Ouvre-toi à ton Créateur. Écoute ce qu'il a à te dire. Lui qui t'a créé, lui qui sait comment tu fonctionnes, lui qui sait ce qui est bon pour toi. Mets-toi son écoute, fais-le rentrer dans ta vie. Donne-lui la première place. Au commencement, Dieu. Je vous invite à la prière. Comme le psalmiste, Seigneur, nous pouvons nous étonner. Qu'est-ce que l'homme pour que tu lui donnes une telle place? Seigneur, donne-nous de nous poser cette question et de nous étonner plutôt que de nous enorgueillir de la place que nous avons. Aide-nous à nous réjouir des possibilités que tu nous donnes comme un cadeau venant de toi et non pas comme une force qui nous permet de tout faire. Rends-nous reconnaissants, rends-nous humbles pour toujours te laisser à toi la première place. Merci pour la bénédiction que tu nous donnes. Merci pour la vie que tu nous as donnée et que tu maintiens en nous jour après jour. Au nom de Jésus, qui est la parole et à travers qui tout a été créé, nous te prions. Amen.